Le paddock RMC, Nicolas Paolorsi.
Salut les amis, le paddock RMC, c'est tous les lundis, vous en avez l'habitude, les débriefs de Grand Prix, les warm-up avant les Grand Prix et également du contenu Formule 1 toutes les semaines. C'est la promesse du paddock RMC. Si tu découvres le podcast, on te rappelle que tu peux t'abonner, on est présent sur toutes les plateformes de téléchargement et puis tu vas t'abonner sur la page Instagram aussi, paddock RMC, animé par notre producteur préféré Kylian Vérov. Il y a plein de contenu là lié au Grand Prix de France historique. Vous savez qu'RMC était partenaire du Grand Prix de France historique ce week-end et Alex Caldi et Séraphin Bette qui étaient sur place, ils ont fait plein de choses. Il y a des interviews avec des grands champions, il y a des coulisses, on voit les anciennes voitures, les Formule 1 dans lesquelles ont pu rouler la Jacques Villeneuve, Olivier Panis, Pierre Gasly, Zach Adjar. Donc ils ont fait plein de trucs, franchement allez voir tout ça parce que c'est très sympa à vivre et je pense que ça va vous donner envie de prendre des places pour le Grand Prix historique de l'année prochaine, parce que ce genre d'événement, c'est sûr que ça va se prolonger en France, on en a besoin. La team du paddock RMC du jour, ils sont là, notre loulou gerbier national.
Salut tout le monde.
En pleine forme.
En pleine forme.
Un poil fatigué.
Bon, ça c'est hein, constant,
oui.
C'est toute l'année.
Le mec est une feignasse. À tes côtés, Ilyes Barry. Salut Ilyes.
Salut à tous.
Et la première de Nicolas Oppé. Alors Nicolas Oppé les gars, il est ingénieur dans la vie. Donc c'est le premier véritable ingénieur qu'on a dans la team des ingénieurs. Et ça c'est beau, salut Nico.
Bonjour à tous et merci pour cette super opportunité.
C'est un plaisir de t'avoir, c'est un plaisir de devoir intégrer le tour de table. Et on rappelle que on donne l'info aux gens que tu as un compte Instagram, Formule France du coup, sur lequel tu donnes plein de data autour des courses de Formule 1, tu racontes plein d'histoires aussi, c'est ça?
Ouais, c'est ça, vulgarisation et un peu d'histoire aussi, parce que c'est toujours intéressant de se pencher sur l'histoire, parce qu'on voit qu'elle se répète souvent et ça permet de mieux voir ce qui se passe actuellement.
Ouais, carrément. Et franchement, c'est super intéressant. Donc vous foncez Formule France sur Instagram avec Nico. Les gars, la thématique du jour, ils auraient peut-être dû être champions du monde de Formule 1, mais finalement, ils ont un palmarès vierge, ils ont gagné quelques courses et ils sont passés peut-être à côté d'une carrière. Vous m'avez choisi des pilotes qui ont touché votre cœur mais qui n'ont jamais gagné titre de champion du monde. Et on va faire des petites tier listes, on va essayer de les classer, on va voir si c'est des pilotes surcotés ou ils sont vraiment passés à côté de quelque chose. Voilà, si le format, vous aimez ça, les amis auditeurs, vous n'hésitez pas à venir commenter avec nous, bien évidemment, sur Instagram, paddock RMC. C'est parti les amis pour ce paddock. Bon, je vous explique les règles du jeu. Nos ingénieurs ont choisi deux pilotes chacun. L'idée, ça va être pour chaque ingénieur un petit peu de nous présenter son pilote, de nous dire pourquoi, selon lui, ce pilote-là aurait mérité d'être champion du monde. Et derrière, on a quatre catégories, les amis. Je vous les donne. Qu'on lui offre un titre. Vous avez vu, j'ai mis la ponctuation. C'est fort. Il l'aurait mérité, mais... trois petits points de suspension. Pas de titre, c'est logique. Et enfin, la dernière catégorie, totalement surcotée. C'est peut-être ma préférée et on va voir s'il y en a qui sont là-dedans. Loulou, on commence avec toi. Tu as choisi ton premier pilote. Qui aurait dû être champion du monde selon toi? Il y a manqué le coche.
Alors, celui que je surnomme mon poupou de l'enfance,
oula,
le poulidor de mon enfance,
ah oui,
c'est David Coulthard.
Ah ouais, je...
David Coulthard qui est toujours placé, jamais vraiment gagnant, en tout cas pour le titre. Hein. Il a gagné, il a quand même une sacrée carrière, il a gagné des courses, il a eu la chance de conduire des monoplaces compétitives. Et à chaque fois, il y en avait un qui était devant lui. Et tu te dis aujourd'hui, alors offrez-lui un titre, c'est peut-être un peu beaucoup, mais il l'aurait carrément mérité, je pense. Après, c'est les yeux d'un enfant aussi. Hein. C'est-à-dire que moi, je suis petit, je vois cette mâchoire énorme, il a un charisme aussi. Dans la voiture, c'était un bon pilote. Peut-être dans mes souvenirs, peut-être un peu plus propre que les autres, peut-être que pas assez méchant. C'est peut-être quelque chose qui reviendra souvent dans cet épisode, parce que je pense que c'est une qualité nécessaire à la fin pour être champion. Il y a des contre-exemples, évidemment, Norris l'année dernière, qu'on a passé l'année à dire que c'était un gentil, puis il a réussi. Mais je pense quand même que dans l'histoire de la F1, il y a un moment où il faut avoir les dents qui raillent le parquet plus que l'autre. Et dans cette génération-là... entre Schumacher et
Hakkinen,
je pense que ils avaient plus envie que lui. Mais est-ce qu'ils avaient vraiment beaucoup plus de talent? Je suis pas sûr, David, quand même, ça conduisait vite.
Mais là, on rentre dans un débat philosophique, les gars. Parce que le talent ne fait pas tout en Formule 1, non. On le sait. 13 victoires pour David Coulthard en carrière. On partage cet avis-là, les mecs, il avait vraiment l'étoffe d'un champion du monde. Moi, j'ai la sensation, parce que c'est ma génération aussi, David Coulthard. Hein. J'ai 35 ans, donc voilà, c'est mes années, Schumi, Mika Hakkinen. J'ai quand même la sensation qu'Hakkinen, à côté, il avait ce côté, tu sais, killer à sang-froid. Et que Coulthard, c'était le mec sympa, le bon numéro 2, mais qui avait du talent. Mais en fait, il rivalisait pas avec Hakkinen.
Ouais, je suis d'accord avec le fait trop gentil, très gentil. Il y a pas mal d'anecdotes comme ça, où notamment en Australie, je crois, un premier Grand Prix de l'année. Premier Grand Prix, normalement, le championnat, il est tout ouvert. Et les deux McLaren sont en tête et l'arrêt se passe mal avec Hakkinen. Coulthard se retrouve en tête et Coulthard écoute la voix de Roland Dennis et relaisse passer Hakkinen. C'est quand même la première course de l'année. Normalement, tu joues ton coup à fond.
Ouais, c'est clair. Que oui. Là, sur une première course de l'année, ouais, c'est. Tu dis, il y en a. On en connaît qui l'auraient pas fait, quoi. Ça, ouais, clairement.
Ouais. Après, clairement. Il a quand même, comment dire, le fait qu'il a couru pour des bonnes équipes qui ont été champions du monde. Il y en a peu qui ont eu quand même cette opportunité-là. Il arrive quand même dans un moment un peu spécial chez Williams en 94 en remplaçant Senna, qui vient de se tuer. Ah voilà. Mais bon, finalement, il se fait battre par Hill, il se fait battre par Hakkinen. Très bon pilote. Mais un titre, il aurait vraiment mérité.
Ouais, je suis en train de regarder. Il a 15 saisons de Formule 1, David Coulthard, les mecs. Donc franchement, c'est quand même un mec qui a eu sa chance. Troisième avec Renault, avec Williams, pardon, en 95. Troisième en 97, troisième en 98, quatrième en 99, troisième en 2000, deuxième en 2001. Et après, derrière, ça commence à partir de 2002 à décliner. Cinquième, et c'est sa dernière grande saison. Et après, chez Red Bull, ça aurait été beaucoup plus compliqué à partir de l'année 2005. Ilias, toi, David Coulthard, c'est quoi ? Moi, j'ai l'impression, quand on le voit dans des événements, il était d'ailleurs sur le Grand Prix de France historique, David Coulthard. Tu sais, c'est le mec qui est bonnard. En plus, il est consultant pour la télé anglo-saxonne et tout ça. Donc, c'est le mec. Mais je sais pas, moi, c'est ce que je te disais tout à l'heure. J'ai jamais eu la sensation qu'il avait vraiment l'étoffe pour aller gratter un titre, tu vois.
Bah, je suis d'accord sur la catégorie « il l'aurait mérité ».
Mais on le met là-dedans. Ah tiens, bah voilà, la petite Charlie, tu le mets là-dedans, toi ?
Ouais, exactement, parce que bon, moi, je suis assez jeune, donc j'ai pas pu le regarder concourir. Mais tu sens que pour être champion, il en faut plus.
Ouais.
Il en faut vraiment plus. Et bon, on a le contre-exemple de Norris, mais Norris avait la voiture pour se battre, même une voiture ultra dominante. Coulthard, il avait beaucoup de concurrents à l'époque, et pour avoir un petit titre, il fallait avoir un peu plus la dalle. Un peu plus l'agnac que les autres, là où il ne l'a pas eu.
Ouais, c'est vrai. Ouais, je suis d'accord. On le met dans quelle catégorie, David Coulthard, les copains, là ? Qu'on lui offre un titre ?
Moi, je le mettrais juste en bas. C'est quoi, juste après ? Il l'aurait mérité ?
Pas de titre ? C'est logique.
Ouais, ça là.
Moi, j'hésite entre, je vous l'ai dit, entre, ouais, il aurait quand même peut-être mérité, mais c'est vrai que ton argument, il y a des pilotes qui ont sûrement le même talent que lui, qui n'ont même pas eu la chance d'avoir les bonnes bagnoles.
C'est vrai que lui, il a eu l'opportunité de rouler.
Lui, il a eu des baquets où normalement, dans ces baquets-là, il y a un moment, tu dois... Donc, tu vois, ça a beau être mon pilote, je vais peut-être même te suivre avec ton argument. Tu vas me le mettre entre les deux.
Allez, on fait pas de sous-catégorie. Déjà qu'avec Kylian, c'est Kylian qui a trouvé les quatre catégories. Ça lui a pris la journée, vrai. Les mecs.
non, mais je vais quand même le laisser par... Pour l'affect, je le laisse dans...
Il l'aurait mérité.
Ouais.
Mais moi, je crois que les gars, je vais trancher. David Coulthard, ça va être dans pas de titre. C'est logique.
Mais ah. je, tu vois, je saute pas sur la table pour dire non, c'est scandaleux.
Non, mais en plus, Kylian est d'accord et on sait que c'est lui le juge de paix. Donc voilà, on le met là. David Coulthard, on est peut-être dur. Hein. Bah, franchement, vous venez commenter avec nous si vous trouvez que David Coulthard, ça mérite mieux. Et puis les souvenirs d'enfance. Parce que pour le coup, moi, j'ai souvenir de très jolies courses avec David Coulthard. Tu vois, c'était le mec qui avait un vrai talent, des manœuvres de dépassement. Moi, j'ai des souvenirs où c'était vraiment très chaud. C'était beau à voir sur la piste.
Ouais, faut aussi rappeler que c'est aussi grâce à lui si Red Bull est arrivé à un tel niveau, parce que c'est lui qui a monté l'équipe au niveau et
il a développé carrément. Il a développé Red Bull à fond. Ilias, ton premier pilote, qu'est-ce que tu nous vends ?
Bah, on va partir sur du Leclerc actuel.
Charles Leclerc ?
Ouais. Bon, lui, c'est un peu compliqué aussi à juger parce que bon, il est encore en carrière, donc.
J'allais dire, c'est quand même dur de juger un gars. On le juge à l'instant T, on va dire. Hein.
Exactement.
Voilà.
Exactement. Mais Leclerc, je pense, rentre totalement dans cette catégorie de mérite un titre. Parce que sur le talent pur, pour moi, c'est peut-être le meilleur talent de sa génération. Derrière Verstappen, il est devant un Russell, devant un Norris. Le problème, c'est qu'il n'a jamais eu une voiture assez régulière pour se battre sur une année. On l'a vu, il a eu là, il a 8 victoires, 27 pole positions. Souvent, il met la voiture là où elle n'est pas censée être. Ouais. Il a eu pendant deux périodes une voiture régulière. C'est début 2022, où il fait quelques erreurs, mais il se fait totalement saboter par Ferrari, par la stratégie ou par les casse moteurs. Et c'est fin 2024, après le retour de Trev Estival, où c'est littéralement le meilleur pilote sur la grille. Là, en fait, beaucoup spéculent sur Leclerc. J'aimerais le voir avec une voiture, une année, qui peut se battre.
Régulière, sur la saison.
Exactement.
Ouais, je comprends. Mais est-ce que c'est pas la force aussi des très grands champions d'être capable d'aligner aussi des perfs quand tout va pas trop bien dans l'écurie ou quand... En fait, moi, le talent de Charles Leclerc, on en parle tout le temps dans le paddock. Louis, tu le sais. Voilà, on sait qu'il a un talent immense. On est très souvent les premiers à le mettre parmi les favoris avant de débuter le championnat. Je crois même que c'était un des favoris de notre saison avant de débuter ce championnat, encore une fois. Mais j'ai la sensation qu'il a eu certaines opportunités. Et il a fait des erreurs, Leclerc, en fait, dans sa carrière. Des erreurs de pilotage. Et ça a été le premier, d'ailleurs, à le dire des fois. Et encore après la dernière course, là, tu vois, quand il a la possibilité d'aller chercher de gros points là, lors de la reprise de la dernière course et qu'il se plante dans le dernier tour. Je trouve que ça symbolise un peu la carrière de Leclerc jusque-là. En effet, il n'a pas tout le temps eu la bonne machine, tu vois. En effet, il a eu une écurie qui des fois l'a saboté au niveau stratégie. Mais quand il a eu l'opportunité de marquer les esprits, il pouvait le faire. Et ben, il l'a pas forcément fait, tu vois.
Mais qui a pas fait d'erreur? Je me souviens de Verstappen l'année dernière qui perd pour deux points de championnat. On lui a rappelé Barcelone 2025 justement. Après, en plus, c'était emboucané avec un journaliste. On a Russell 2023. Je me souviens dernier tour de Singapour. Où il peut essayer d'aller chercher la victoire et il la met dans le mur,
c'est vrai.
Derrière Norris. On a Norris, je ne sais combien de fois on l'a expliqué qu'il bah, ne tenait pas la pression. Tout le monde fait des erreurs.
On a même des champions du monde. On a Lewis Hamilton en Chine dans le bac à sable. On a Vettel à Hockenheim. Enfin, c'est vrai qu'une erreur, ça peut arriver à tout le monde. Mmh, mais ouais. Moi, j'ai envie de vous mettre d'accord, les amis, parce que ça me fait plaisir. je pense que c'est une cause-conséquence. C'est-à-dire que pourquoi Leclerc, il a jamais, comme tu dis Nico, il a jamais eu une voiture en fait régulière. Il a toujours dû un peu surpiloter et ses exploits ont été souvent. Moi, pour moi, les exploits, il les a fait. C'est juste qu'ils sont pas au niveau de son talent parce que bah, mettre une voiture troisième quand elle vaut 6 ou 7, bah ça passe un peu inaperçu. Mais il est là et Leclerc, il a pour le moment encore jamais eu une voiture qui lui permette d'être régulier comme d'autres. Et moi, justement, je pense que c'est un pilote qui... Ses erreurs viennent d'une frustration parce qu'il n'a pas l'outil.
Ouais, il mais pousse. En fait, il pousse au-delà de la limite.
Alors, vous allez me dire que je l'ouvre que pour les gars que j'aime bien, mais lui, je suis persuadé que c'est un Fury Class, tu vois.
Ouais.
Et du coup, je suis persuadé que c'est le... Allez, c'est comment dire, tu sais, le gamin HPI en CM2, il n'écoute rien, il fait n'importe quoi, mais parce qu'en fait, il devrait être en quatrième. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, carrément.
Et ben moi, il y a un peu de ça chez Leclerc, c'est que tu vois, il est dans une voiture collège, lui, il est déjà au lycée, quoi. Maintenant, faut lui donner l'outil, quoi.
Ouais.
Là, il y a pas trop de. Mais je pense vraiment que c'est ça, sa frustration, ses erreurs, parfois ces trucs comme ça où tu te dis, il a craqué là. Ben ouais, je pense qu'il tout simplement il a craqué parce que il en a marre un peu.
Ça, je suis d'accord. Le côté, en fait, j'en peux plus, je pousse au max et du coup,
Fait combien d'années qu'il est le petit prince de Ferrari qu'il est censé
ça
être.
Ça va être sa 8e année, je crois.
Ouais. Tu te rends compte?
Mais c'est pour ça, il va se retrouver face à un choix aussi à un moment donné.
Ah bah, c'est-à-dire, il y a le pire choix de sa vie.
Il y a plein de pilotes qui ont gâché leur carrière. Justement, je vais en parler d'un juste après, qui ont gâché leur carrière pour l'amour de Ferrari.
Mm-hmm.
Typiquement. Leclerc.
Ça, c'est une relation toxique. La Scuderia, c'est une relation toxique.
Ah, bah, totalement. Et aussi bien avec leurs pilotes qu'avec leurs fans, j'ai l'impression.
Mais toi, tu penses, Nico, qu'il a vraiment cette étoffe de. Alors, après, encore une fois, on se projette. Ça se trouve, il sera champion du monde dans. On va pas dire peut-être à la fin de la saison, parce que ça va être compliqué cette année. Mais en tout cas, ça se trouve, l'année prochaine, il est champion du monde.
Ouais, totalement. Tu lui donnes la bonne voiture. Il a forcément le niveau pour jouer le titre, comme un gars comme Russell, comme un gars comme Piastri. Pour moi, c'est les
mais
trois.
Mais il a ce truc en plus, lui. Tu sens qu'il a ce truc en plus.
Ouais, ouais. Quand on regarde son parcours en jeune, F3, il atomise tout le monde. F2, il atomise tout le monde. Première saison chez Sauber, c'est exceptionnel. Il arrive chez Ferrari. Vettel, on le reconnaît plus. Franchement, un gars comme Leclerc, ça mérite un titre qu'on lui donne, non?
Ouais, je suis d'accord. On le met dans quelle catégorie, du coup, les gars? Bon, on lui offre un titre?
Ah bah oui.
Je viendrai lui remettre en personne.
Le déplacement.
Ouais. Tu le remettras sur son nouveau yacht.
Après, on espère qu'il aura l'occasion quand même, parce que c'est aussi ça la Formule 1, c'est des profils comme ça où c'est pas tout tracé, où il y a un petit détour dans un chemin qui devait le mener vers le titre. Leclerc, on espère qu'il arrivera à trouver et à aller chercher ce titre. Et si ça peut être avec Ferrari, ça en ravira plus d'un.
Je suis totalement d'accord avec vous. Hein. fan de Charles Leclerc.
C'est vrai, juste pour finir là-dessus, c'est qu'il y aura deux titres pour Charles. Il y aura potentiellement un titre de champion du monde et un titre de champion du monde avec Ferrari. Oui. Et pour moi, on ne peut pas les mettre au même niveau. Parce que celui avec Ferrari, on sait que pour lui, comme pour l'histoire, comme pour les fans, pour tout le monde, ça sera quelque chose de supérieur qu'un titre si demain il part chez Mercedes ou Red Bull, disons, et il le gagne l'année prochaine. Thiago Silva, Chelsea, quoi. Fallait le gagner avec le PSG, pas pareil.
Ouais, je suis d'accord. Mais donc, tu te dis que le gars, il fait une carrière à la Paolo Maldini pour rester dans le foot. C'est l'homme d'un seul club, c'est l'homme d'une seule écurie. Il va jamais en prendre un.
C'est toujours.
Dur pour lui, pour le mec.
Oui, non, mais je te dis pas qu'il doit pas. Il y a un moment, tu l'as très bien dit, Nico, il faut être froid.
Ouais.
Et aller prendre le titre là où il peut le prendre si à un moment on lui offre un baquet compétitif. Mais
il aura toujours ce regret.
Il aura toujours, lui, au fond de lui, il veut la gagner il veut le gagner avec la Scuderia. Et oui, on a tous envie de ça parce que déjà la Scuderia, ça commence à faire un moment. Et puis toute cette histoire, elle part de loin. Elle parle que c'est aussi le filleul de Jules Bianchi. Enfin, tu vois, il y a toute une histoire qui fait, ouah, s'il finit l'histoire un peu, tu vois, là, il y aura quand même...
Il a fini le jeu un peu.
Ah ouais, il y aurait quelque chose... C'est impossible de dire le contraire, de dire qu'il n'y aurait pas quelque chose en plus qu'un titre de champion du monde ailleurs.
C'est des choix forts aussi qui différencient les bons pilotes des grands champions. On parle de Schumacher qui a fait le choix fort de quitter Benetton alors qu'ils étaient au top pour aller Ferrari, les faire progresser et gagner 5 titres. On a la même chose avec Hamilton. Hamilton, champion avec McLaren, il a fait le choix quand même de partir chez Mercedes, qui n'était presque rien pour le moment. Donc c'est des choix forts comme ça qui différencient des pilotes qui ont leur nom au Hall of Fame et de ceux qui sont au top.
Ouais. Je suis d'accord avec vous les amis, on le met dans qu'on lui offre un titre, Charles Leclerc. Très bon choix, Ilyes. Nico, ton premier pilote,
C'est super qu'on parle de Leclerc avant, puisque moi je vais vous parler de Jean Alési.
Oui.
Forcément, moi je vais faire des pilotes un peu plus historiques, mais c'est bien aussi pour tous les jeunes qui suivent la Formule 1 de voir un peu ce qui s'est passé avant.
J'ai l'impression que tu as 60 ans quand tu nous racontes un truc. Il est jeune, hein. Allez voir sur les réseaux, hein. Il est jeune, Nicolas.
Ah, mais ça, c'est grâce à mon papa. On est baigné dedans depuis le début. On commence à se former très tôt. Et du coup, allez-y pour refaire un peu un contexte historique. Il commence en 89 avec Tyrrell. Et son premier Grand Prix, Grand Prix de France, il termine 4e. Alors là, tout le monde se dit, ce gars-là, c'est un très bon. Donc des équipes commencent à s'intéresser à lui, notamment Williams et Ferrari. Williams commence à discuter avec lui et il signe jusqu'à un pré-contrat avec Williams. Mmh. Donc à ce moment-là, tu te dis que la carrière du petit jeune d'Avignon, elle est bien partie. Et 2 mois après, il y a Ferrari qui toque à la porte et qui dit, Jean, on est intéressé par toi, est-ce que tu es intéressé de venir ? Problème, allez-y, a déjà signé son pré-contrat. Sauf que Ferrari sent la douille. Parce que Ferrari, au cours de l'année, s'est renseigné pour un certain Ayrton Senna. Et Senna leur a dit, je suis déjà en discussion avec Williams. Allez-y, se dit, oula, est-ce que Frank Williams ne me prendrait pas pour son plan B ? Donc là, ça commence à tourner. Dans son contrat, il devait être officialisé au Grand Prix de France.
Okay.
Grand Prix de France, Williams-Renault, c'était quand même un super signe marketing. Renault, Williams, un pilote français. Grand Prix de France, aucune annonce. Donc, allez-y, il va voir Frank Williams, il lui dit, qu'est-ce qui se passe ? Si au prochain Grand Prix, je ne suis pas officialisé, moi, le pré-contrat à la poubelle. Deux têtes fortes comme ça qui s'affrontent. Personne n'a voulu lâcher le morceau. Allez-y, pré-contrat, terminé. Il signe avec Ferrari, finalement, et on connaît la suite de sa carrière. Ce qu'il faut regarder, après, c'est d'un point de vue historique. Ferrari, de 91 à 97, c'est 0 titres de champion du monde.
Ouais.
Williams, de 91 à 97, c'est 4 titres de champion du monde pilote, 5 titres de champion du monde constructeur. Donc, avec des gars comme... face à des gars comme Mansell et Patrese, allez-y, on peut assurer qu'il aurait eu au moins plus d'une victoire. On peut assurer qu'il aurait pu jouer le titre. Et franchement, quand tu vois des saisons comme 92 ou 93, où la Williams est tellement au-dessus du lot, il a quand même loupé la chance de sa vie.
Ouais, on rappelle que du coup, tu l'as dit, hein, Jean Alési, c'est une seule victoire en Formule 1 avec Ferrari en 95 à Montréal, je crois, au Canada.
Ouais.
Malgré tout, je suis d'accord sur le côté mauvais choix. En tout cas, l'orientation de carrière qui prend une tournure à laquelle tu ne pouvais pas t'imaginer un pareil scénario avec Ferrari qui rentrait dans cette période de disette-là. Moi, je me pose toujours la question, quand on évoque Jean Alési, de me dire s'il avait eu vraiment la voiture, est-ce qu'il n'y avait pas une concurrence de zinzin à ses côtés, tu vois, pour aller chercher le titre de champion du monde et être le meilleur à la fin.
C'est clair, c'est ce que je me suis noté, c'est qu'à l'époque, c'est quand même du Ayrton Senna, c'est du Alain Prost,
c'est
du Michael Schumacher. Et au-delà de ça, en fait, c'est typiquement le mauvais choix de carrière. tu tapes mauvais choix de carrière, synonyme, allez-y. Ouais, c'est simple. Mais j'ai du mal à mettre au même rang un pilote qui a un énorme talent et qui ne l'a jamais été, qu'un autre pilote qui avait un bon talent, mais qui a juste fait un mauvais choix de carrière. Mm. Certes, s'il avait, il avait été à Williams, il aurait peut-être eu ce titre de champion du monde. Mais je sais qu'on a des dizaines de pilotes qui avaient vraiment un gros talent et qui ne l'ont jamais eu par malchance ou autre. Et pour moi, ceux-là, je les mets peut-être un peu au-dessus des mauvais choix de carrière.
Ouais, tu veux dire qu'on est un peu dans la F1 fiction avec Jean Alesi. C'est qu'au final, OK, le talent, il était évident à la base, mais il n'a jamais eu la monoplace pour. Et du coup, on ne sait pas ce que ça aurait donné avec une bonne voiture entre les mains. Exactement. Alors qu'il y a des gars qui ont vraiment raté des titres par malchance, par circonstances de course, par choix stratégique ou quoi que ce soit.
Je pense aussi que le pauvre Alesi, il a été totalement dévalorisé en France, notamment par les guignols où il s'en est pris plein la tronche.
C'est vrai que l'image n'était pas dingue.
Et on a du mal quand même à se rendre compte à quel point Alesi avait une image exceptionnelle.
Mais c'est un super champion, attention. Hein,
ah ouais, mais les gars, hein. Je pense qu'au début de sa carrière, il a un peu la même réputation qu'un gars comme Leclerc actuellement, si on veut faire une comparaison.
Ouais, ouais. Ça peut être un peu une image de loser magnifique.
Mais c'est... le truc particulier sur Alesi, c'est que quand il ne va pas chez Williams, on est à une époque particulière, tu l'as dit Nico, c'est qu'elle n'est pas au-dessus la Williams, elle est d'une autre planète à ce moment-là. Et donc, en fait, il aurait croqué, tu vois, c'était sûr.
Oui, même sans gagner, il aurait terminé deuxième du championnat.
Oui, voilà,
il aurait gratté des victoires.
Exactement, parce que vraiment, c'était... Donc, c'est sûrement au niveau du pire choix. Là, tu te dis, ça se trouve... Bon, après, ça se trouve, il n'aurait jamais été choisi parce que Frank Williams était en train de lui faire à l'envers. On ne sait pas non plus. Hein. Ouais. Peut-être qu'il s'est sauvé. Parce que ça se trouve, il était sans baquet deux mois après. Tu vois, on ne la connaît pas. Mais c'est vrai que tu te dis, ah ouais, là, quand même, t'as raté gros. Quoi.
Quelle catégorie pour Jean Alesi ?
La même que Coulthard ?
Ouais.
Pas de titre ? Logique ?
Ouais,
je suis d'accord.
Allez, Jean Alesi qui rejoint David Coulthard. Loulou, ton deuxième pilote ?
Alors, on revient un peu dans l'époque moderne avec Daniel Ricciardo.
Ah !
Daniel Ricciardo...
Il était noté, lui.
J'ai choisi de le faire entrer dans la compétition parce que ça a été une carrière qui pouvait être linéaire. Et puis, en fait, il a décidé de nous faire un truc. Et puis, à la fin, même lui, il ne comprenait plus ce qu'il faisait là. Donc, il est arrivé en disant toujours, hein, dans toutes ses interviews, Ricciardo, tu l'entends depuis toujours, dire qu'il n'a qu'un seul objectif, c'est le titre de champion du monde. Donc, vraiment, lui au plus profond de lui-même, il y croyait. Bon, ils sont beaucoup dans ce cas-là, hein, souvent tous les pilotes qui sont sur la grille. Et il a une carrière où il est repéré par Red Bull. Donc, il va faire ses classes chez Red Bull. Il va faire quelques grands prix chez HRT pour des histoires de remplacement comme ça, pour se faire à la main. Mais sinon, c'est Toro Rosso, Red Bull et tout ça. Donc, il a une trajectoire parfaite chez Red Bull. Et il s'avère que Red Bull est quand même dans une très belle période, puisque je crois qu'il arrive à la... Il remplace Weber.
14, donc, il arrive en 14.
Ouais, donc, il croise Vettel un petit peu. Puis une ensuite, Vettel, ouais. Il aura un petit gars qui arrive. Et donc, il a tout pour, il arrive à la fin du champion, qui va partir à la Scuderia. Et là, justement, c'est le moment où tu te dis, la voiture, elle va être compétitive, l'équipe, elle est là, il devrait passer numéro 1 et c'est pour lui maintenant. Et c'est d'ailleurs marrant parce que tout ça, tu le vis énormément de l'intérieur avec Netflix, parce que Netflix arrive à cette année-là. Et tu le vois, mais en train de se prendre la tête parce que Verstappen, l'arrivée de Verstappen, alors tu
me dis, ça chamboule tout dans sa carrière.
Ça chamboule, mais tout à un niveau. C'est-à-dire, il y a un petit gars, voilà, on le sentait arriver, mais qui arrive, mais à cette vitesse et si vite en fait, il sent que tout le garage ne regarde plus que du côté, ou en tout cas, c'est ce qu'il ressent. Je sais pas, j'y étais pas. Mais du côté du petit gars qui devrait tout fumer. Et est-ce qu'il faut leur donner tort aujourd'hui, le gars ?
Bah, il a tout fumé. Il est encore en train de tout fumer.
Et voilà, et il continuera. Donc, lui, je pense qu'il sent une frustration, une injustice. C'était mon moment, c'était peut-être ma saison. Et là, il décide de partir chez Renault. C'est notre ami Cyril Abitbol. Et à partir de là, c'est là, pour le coup, les choix forts dont on parlait. Bah là, c'est le choix très faible. Ouais. C'est-à-dire que dans une espèce de frustration, il se dit « Ah ouais, mais en fait, faut que je bouge quoi qu'il. » Oui, mais en fait, si le seul baquet, c'est 40 millions, certes, parce que je crois qu'ils lui ont fait un pont d'or, hein, pour le faire venir. Déjà, quand on te fait un pont d'or, tu sens que sur le sportif, ils ne sont pas hyper confiants, les gars, parce que sinon, tu viens. Donc, compliqué. Et puis après, on n'en parle même pas. Il passe vite fait chez McLaren au pire moment. Derrière, et il finit avec une blessure au pouce. Terrible, terrible. Mais c'est peut-être un des freineurs tardifs les plus fous que j'ai jamais vu.
Ouais, super pilote, un talent incroyable.
Je sais plus, une de ses victoires, Turquie, Malaisie, je sais plus. Il enchaîne, mais peut-être 5-6 freinages. Et ce jour-là, j'ai dit, ah oui, ok, ouais, c'est comme ça que j'aimerais conduire.
Il a gagné en Malaisie.
Ouais, voilà, en Malaisie.
Je pense que ce que tu fais référence, c'est en Chine, en 2018. On se retrouve avec les 6 premiers Grands Prix de l'année.
Et bien alors, c'est celui-là. Ouais.
Et en 6 premiers Grands Prix de l'année, 2 pour Hamilton, 2 pour Vettel, 2 pour Ricciardo. Et là, on se dit, oh, on va avoir un sacré championnat.
Ouais. Il y a 14 saisons hein, de F1 à côté Daniel Ricciardo. 8 victoires. Alors, il a gagné de 2014. Et la dernière, c'est en 2021 avec McLaren. Il arrive à en prendre un. Il a quand même gagné sur 7 ans. Tu vois, c'est pas donné à tout le monde.
C'est Imola qui gagne, non ?
Monza.
Monza.
Il gagne Monza.
C'est Monza qui gagne alors que toute la saison, il est vraiment à la rue. Et il attrape la victoire quand Norris, cette année, gagne pas, je crois.
Il termine devant Norris.
Mais tu vois, Daniel Ricciardo au championnat du monde, ça n'a jamais fait mieux que troisième du championnat, 2014 et 2016. Après, franchement...
Après des années de domination Mercedes aussi.
Bien sûr.
Troisième, c'est le meilleur des autres.
Mais oui. Oui. Mais il est le meilleur des autres que deux fois sur une carrière de 14 saisons. Tu vois, après son meilleur résultat, c'est en 2020 où il termine cinquième du championnat avec Renault. Donc en fait, avec Ricciardo, c'est toujours. Là, c'est un talent brut, tu le sens. Il y a des victoires mémorables. Et puis il y a une personnalité aussi avec Ricciardo qui fait qu'on a développé, je pense, un affect pour lui. C'est un mec, et à travers Netflix en plus et Drive to Survive, la série, ça s'est encore plus développé. Mais c'est un mec qui t'a fait rentrer un petit peu dans l'intimité de la Formule 1, qui a aussi permis de voir que ces mecs-là n'étaient pas que des champions formatés et tout. C'était un mec qui avait un côté humain, tu vois, et ça joue. Malgré tout, je ne sais pas dans quelle catégorie le classer, Ricciardo.
Je sais pas, parce que Ricardo, c'est un peu le coup de cœur. On était dans les métaphores foot, c'est un peu le Neymar skills 1080p, quoi.
Pas faux.
Donc non, Ricardo, grand personnage. Pour moi, c'est totalement logique qu'il n'ait pas eu de titre. Même si, c'est vrai que voilà, les interviews... Il y a cette saison 2018 où il a de la malchance parce que tu sens un peu que le garage se retourne. On a Baku 2018, où le tort est partagé, mais on sent que Red Bull, c'est... se range derrière Verstappen, et là vraiment il y a un petit tournant. Saison 2018, il y a énormément de DNF aussi, avec le moteur Renault. Donc tu sens que cette saison-là, c'est un peu un tournant pour lui, il en avait marre. Et après, il s'est un peu perdu chez Renault, chez McLaren, même s'il y a eu ce coup d'éclat à Monza. Mais dans la globalité, pour moi, c'est logique.
Ouais.
Faut revenir aussi sur le choix. Qu'est-ce qui a fait que Ricciardo a quitté Red Bull hein. C'est aussi un moment où il y a eu le divorce Renault-Red Bull,
ouais.
Et s'est dit mince. Red Bull va se retrouver avec le moteur Honda qui a cartonné la carrière de tous les pilotes McLaren depuis 4 ans. Qu'est-ce que je fais ? Et là, donc ça a permis aussi de faire un petit coucou à toutes les têtes pensantes de chez Renault qui lui avaient vendu le plan sans Grand Prix pour jouer le titre. On les attend toujours.
Ouais, c'est pas faux. Nico, tu le mets dans quelle catégorie, Daniel Ricciardo ?
Y a quand même l'affect qui prend beaucoup de place, mais moi, je le mets encore un peu au niveau de Coulthard. Donc,
ah ouais ?
Ouais, un peu plus bas que vous, du coup.
Ok, les gars.
Ah, moi, j'irais peut-être quand même mettre il l'aurait mérité,
mais
il lui manquait sûrement quelque chose, puisque la carrière l'a prouvé, mais j'en ai pas vu beaucoup freiner.
Il y est.
Ouais, le cœur le met dans il aurait mérité, la raison dans c'est logique.
Ouais, je vais trancher. Allez, on va le mettre dans il l'aurait mérité, parce que Daniel, les interviews et tout ça, la bonhomie, le talent aussi, j'avoue, qui me fait lever de mon siège. Allez, Daniel Ricciardo, c'est il l'aurait mérité, mais... C'est pour toi, mon loulou, que je fais ça. Hein.
Merci, c'est gentil.
Ilias, ton deuxième pilote.
Le plus grand what if, sûrement.
Ah, je sais, on l'a.
Kubica.
Bien sûr.
Évidemment.
C'est à partir du moment où Lewis Hamilton, cette fois champion du monde, qui a le plus de victoires, le décrit comme le plus grand talent de sa génération. Je pense qu'il a tout dit. C'est quelqu'un qui avait tout pour se battre pour un championnat. Mais il a été victime de plusieurs accidents. Bon, il y a eu celui au Canada 2007. Il revient... malgré tout, un an après, il gagne Canada 2008, sa seule victoire. Et après, 2011, pareil, cet énorme accident qui met un terme à... Il met pas un terme à sa carrière, mais en tout cas, il entache grandement ses espoirs de titre. Il en revient. Et par la suite, bon, il y a eu un pré-contrat aussi avec Ferrari qui du coup, est tombé à l'eau. Il revient en 2019 chez Williams. Il conduit à une main.
Ouais.
Il finit devant Russell à une main. Même si Russell finit devant head-to-head. Au final, au classement, il est devant Russell. Et après, il part un peu s'attaquer aux 24 heures du Mans. Il gagne les 24 heures du Mans. Donc pour moi, c'est vraiment la définition de talent immense.
Et le gars, il a tout fait.
Et c'est même pas gâché par des mauvais choix ou par... C'est vraiment juste, il était victime d'un accident énorme, quoi.
Accident en Formule 1, mais talent brut. Il gagne les 24 heures du Mans, il pilote en rallye. Franchement, au 21e siècle, un pilote complet comme lui avec ce talent-là, il n'y en a pas beaucoup, Nico.
Ouais, carrément. Et puis, je pense qu'il faut aussi se rendre compte un peu du travail qu'il a dû faire pour un Polonais pour arriver en Formule 1.
Ouais, c'est vrai.
Quand même, parce que dans des conditions, le gars, globalement, il a fait ses carrières de karting fin des années 90, début des années 2000. Il a réussi à monter des budgets pour arriver en monoplace. Quand t'es Polonais, je ne sais vraiment pas comment il a fait pour arriver là. Et les opportunités, il les a saisies une par une. Et effectivement, bah, il avait un pré-contrat pour remplacer Massa en 2010, après l'accident de Massa. On ne saura jamais, mais une équipe Alonso-Kubica, sachant qu'ils s'entendent très bien les deux, ça aurait pu être assez exceptionnel.
C'est vrai que c'était sur le papier, c'était joli.
Bah, on a tous entendu, il l'avait dit à demi-mot, ce fameux contrat. Il avait dit, ouais, j'avais déjà signé quelque chose avec une grande équipe. On lui fait dire, mais alors quelle équipe ? Il dit, oh, je ne peux pas dire, mais elle est rouge. Tu vois, enfin, ok, merci. Ah, je ne sais vraiment pas de laquelle il parle. Mais c'est une carrière de fou, parce que tu l'as dit, c'est...
C'est au-delà d'une carrière, en fait. C'est une vie de fou.
Ouais, c'est une vie de fou.
Ça dépasse le stade de la carrière, lui.
Et il finit finalement comme ça à attraper les 24 heures avec Ferrari. Alors,
avec la troisième voiture de Ferrari, ouais. Hein, pas celle qui normalement est poussée pour gagner.
Mais bien sûr, pas du tout. Enfin, donc, tout est fou. J'ai eu la chance de le croiser cette année, justement.
T'en connais du monde, toi. Ouais. Il a fait son footing avec Hülkenberg. Non, mais attends. Non,
moi, j'étais en Kia Picanto à côté de celle d'Alain Marshall, qu'on salue. Mais Kubica, je l'ai croisé. C'est vrai que quand même, tu lui serres la main et tu comprends mieux que ça a été très grave et que tu te dis comment, avec ton bras comme ça et cette main qui a vraiment l'air vraiment handicapé. Enfin, vraiment, tu vois.
Comment ça se caractérise justement un peu sa blessure?
Tu sens une certaine rigidité. Tu sens que. Il est d'un naturel qui fait que déjà, tu as l'impression. Enfin, faut le savoir en fait. Il y a des gens qui vont passer à côté comme ça. Mais quand tu regardes un peu et que tu t'arrêtes, tu te dis, mais je vois pas. Enfin, tu vois, elle est un peu atrophiée.
Il n'y a plus du tout de mobilité.
Il a perdu en mobilité. Donc, tu te dis, tu as conduit une F1 et des voitures et des hypercars comme ça, quoi. Et tu as gagné, en plus, parce que tu n'as pas pris le premier mur, quoi. Donc, vraiment, oui, c'est clair que... Il fait pas aussi deux trois petits sauts chez Alfa Romeo à un moment.
Il est troisième pilote, il me semble.
Troisième pilote.
Il remplace pendant les années Covid.
Ouais, c'est ça. Il revient comme ça et puis en fait tu le remets dedans et puis.
Il fait deux grands prix avec Alfa Romeo.
Ouais. Et en deux séances d'essai, le gars est au niveau et tout, et tu te dis quand même il avait un truc lui que lui j'ai quand même l'impression qu'on a raté quelque chose.
Alors on le met dans quoi lui?
On lui met
son titre.
Totalement.
Allez Robert, c'est pour toi avec Charles Leclerc. On a dans qu'on lui offre un titre Leclerc.
Deux pilotes au top. Hein.
Ouais. C'était peut-être un peu des petites habiles, mais bon.
Mais non. Mais Kubica, c'est en plus les années dans lesquelles il aurait été dans la Ferrari, c'était fou. Il y avait des pilotes en face et tout. Enfin, ça aurait pu être complètement dingue. Et énorme pilote.
Nico, ton dernier choix.
Ouais, alors moi je vais vous faire travailler encore une nouvelle fois l'histoire, mais encore plus loin, dans les années 70.
Ah.
Et c'est très important qu'on parle de Ronnie Peterson. Globalement, Ronnie Peterson, dans les années 70, c'est le Charles Leclerc de l'époque.
Okay.
C'est-à-dire qu'il est beau, il est jeune, il va vite, et en plus, il est super impressionnant sur la piste, et ça, les spectateurs, ça les épate. Et donc il commence en 70, mais c'est surtout en 71 qu'il se fait remarquer. Parce qu'il arrive vice-champion du monde avec une petite écurie qui s'appelle March, mais la même année, il est champion de F2. Ça, c'est quand même c'est une époque où certains pilotes de F1 revenaient en F2 pour certaines courses, et on a du mal à s'imaginer maintenant Hamilton qui pourrait redescendre en F2 pour se mesurer à des petits jeunes.
Oui, en effet.
Donc c'est une époque aussi qui veut ça, et donc il est repéré directement par Lotus et le fameux Colin Chapman, qu'il met dans les meilleures voitures. Sauf que au moment où il arrive chez Lotus, Lotus commence à dégringoler. Donc il ne sait plus trop quoi faire. En 75, c'est la pire saison de Lotus. Je crois qu'il se retrouve 13e du championnat à la fin de l'année. Du coup, il dit c'est le moment de partir. 76, il revient chez March. Et puis 77, il va chez Tyrell. Tyrell, c'est la troisième force de l'époque.
Ouais.
Et c'est pile poil au moment de la Tyrell à 6 roues, la fameuse Tyrell à 6 roues. Sauf que la Tyrell à 6 roues, elle a fonctionné en 76, mais pas en 77. Et là, c'est encore pire, c'est un calvaire. et devinez qui remonte au top à ce moment-là.
Chez Lotus.
Lotus, voilà. Lotus qui, fin de saison 77, a développé une arme qui changera la F1 à tout jamais, l'effet de sol. Et on comprend pourquoi Lotus, du coup, a dégringolé. S'il y avait tellement d'énergie sur cette nouvelle technologie qu'il ne pouvait pas être au top partout. Colin Chapman, fan absolu de Peterson, lui redonne sa chance. Elle le reprend chez Lotus en 78, mais il a spécifiquement son contrat. Il est numéro 2 derrière Andretti. Et ce contrat, il le respectera. Il restera toujours derrière Andretti, même s'il a l'occasion de passer de temps en temps. Mine de rien, il reste en bataille pour le titre jusqu'au bout, mais à 3 Grands Prix de l'année, malheureusement, il est victime d'un très gros accident à Monza où il décédera. Et c'est un peu comme si la star de l'époque qui était amenée à être champion décède du coup.
C'est le Sénat de l'époque, un peu dans une moindre mesure.
On peut dire Gilles Villeneuve, peut dire ces cas-là, mais c'est...
Oui, parce qu'il est deuxième du championnat en 78, quand il y a ce crash terrible. C'est quand même un pilote qui a gagné 10 victoires. Et on sait qu'à cette époque, il y avait moins de courses. C'était quand même autre chose. C'était quand même difficile de s'imposer. J'adore les histoires comme ça. Et il est très bon compteur, Nico. Franchement, il m'a amené dans les années 70, là. Je me voyais avec des rouflaquettes.
J'étais en train de chercher le deuxième épisode sur les podcasts, je ne trouvais pas.
Ronnie Peterson. Et du coup, avec ton histoire... on le met où, les gars, Ronnie Peterson?
Franchement, je pense que...
Qu'on lui offre un titre?
Si Jean-Luc Roy était là, il le mettrait au top.
Ouais.
Parce que clairement ses générations et ça, tout ça.
C'est même un argument d'autorité.
C'est un argument de quoi? C'est le patron. Il veut qu'on va tous garder notre place dans ce podcast. Allez, déjà, qu'on lui offre un titre.
Mais moi, avant que tu nous contes son histoire, je t'aurais dit la vérité. Je suis un peu passé à côté.
Ouais.
Maintenant, j'ai l'impression que tu viens de nous présenter le Pierre Richard de la Formule 1.
Ouais. C'est-à-dire que le mec le plus malchanceux.
Le gars, il allait toujours là où l'herbe était plus verte, mais le temps qu'il arrive, elle avait fané. Enfin, c'est incroyable comme histoire. C'est très drôle. Après, du coup, je ne l'ai jamais vu rouler, je n'avais pas trop entendu parler.
On a vu l'histoire qu'on lui offre un titre.
Allez, et de toute façon, ça ne coûte pas plus cher.
Et puis en plus, Jean-Luc va apprécier cette séquence. Je vous en donne un dernier. Mon petit pilote à moi, on le classe où? Rubens Barrichello. Parce que moi, dans mes souvenirs, Barrichello, c'est l'éternel lieutenant de Schumacher. Avec tous les débats qu'il y a pu avoir sur le fait qu'il laisse passer Schumacher à certaines courses. Enfin, tu vois, c'était le numéro 2 devant l'éternel, avec ce potentiel où tu disais que ce gars-là, quand même, il avait un truc. S'il n'était pas dans la même écurie que Schumi, mais avec une voiture qui a le même potentiel que la Ferrari, ça pouvait matcher, non?
Ouais. C'est un peu le même profil que Coulthard pour moi. C'est,
okay.
Le lieutenant, lui, pour le coup, c'était marqué clairement dans son contrat. Tu es le numéro 2, et on se rappelle forcément de ce qui s'est passé en 2002 en Autriche, où il laisse passer sur la ligne Schumacher. Je pense qu'il avait...
C'est 11 victoires, Barrichello. Hein.
Je pense qu'il n'avait pas le niveau de Schumacher, clairement. Sur une saison ou deux, il aurait pu peut-être l'amener jusqu'au dernier Grand Prix pour jouer le titre. Et puis, il a eu aussi une nouvelle opportunité par la suite avec Brown.
Ouais, où il gagne deux courses chez Brown GP. Barrichello, ça t'inspire quoi, toi?
C'est ce que j'allais vous demander, surtout, parce que lieutenant Schumacher, ok, bon, on peut pas vraiment contester ça, c'est Schumacher, on lui donne tout, mais 2009, il a une nouvelle occasion avec Brown GP, et il passe complètement au travers.
C'est vrai.
Et c'est Jenson Button qui la gagne, donc au final, est-ce qu'il la mérite vraiment quand il a eu l'occasion et qu'il ne l'a pas assumé?
Pas faux, bon argument.
C'est aussi le...
Ils sont bons, ces petits jeunes.
Ouais, c'est aussi le... un des trois pilotes qui fait un crash à Imola en 94 et c'est le seul qui, heureusement, s'en sort. Quoi.
Ouais.
On rappelle quand même ce week-end de fou au niveau funeste. Barrichello, ouais, pour moi, c'est le numéro 2. Comme vous dites, il a pris ce qu'on lui a donné et il n'a pas pris ce qu'on lui a dit de ne pas toucher. Donc, bon élève.
Voilà, pas de petite logique, quoi, j'ai compris, les gars.
Ouais, moi, okay. si je voulais un peu prolonger l'avis de Kylian sur le sujet, je dirais totalement surcoté, mais je ne l'ai pas assumé tout seul.
Ah ouais? Alors, là, on va avoir un problème. Il a quand même 19 saisons de Formule 1, Rubens Barrichello. Il a commencé à rouler en 93, il arrête en 2011. Il a quand même traversé les époques un peu.
Il a eu longtemps le record de plus grand nombre de Grands Prix avant qu'Alonso passe devant et Schumacher, je crois.
Totalement. Les gars, je vous refais un récap. Je vous rappelle qu'on parle des pilotes de Formule 1 qui auraient peut-être dû être champion du monde, mais qui n'ont jamais gagné un titre. Qu'on lui offre un titre, Peterson, Leclerc et Robert Kubica. Il l'aurait mérité, mais on a mis Daniel Ricciardo et ensuite, dans pas de titre, c'est logique, on a David Coulthard, Jean Alesi et Rubens Barrichello. On n'a aucun pilote dans totalement surcoté. Il va falloir me mettre un gars dans cette catégorie, les amis.
Aïe, c'est notre
dernière mission de ce podcast, totalement surcoté. Allez, on peut enlever le totalement, on peut mettre dans surcoté. Coulthard, allez-y, ou Barrichello, j'imagine, ça va jouer.
On
parle d'un titre de champion du monde.
Moi, je mets Barrichello dans ces trois-là.
Ouais, je pense que je me joins à Louis et je mets Barrichello.
J'aurais jamais dû proposer Barrichello. Il nous a flingué la fin de podcast, Barrichello. Nico, tu mets pareil ?
Ouais, est-ce qu'on pourrait vraiment mettre des pilotes qui ont gagné des grands prix en Formule 1 en surcoté ?
On est subjectif, ça reste un format un peu fun et bien évidemment, on sait que ce sont tous des monstres hein, déjà, être capable de rouler à ces vitesses-là.
Moi j'aurais mis Ricciardo en surcoté.
Pourquoi surcoté, Ricciardo ?
Je sais pas, en fait, je trouve qu'il y a eu beaucoup d'affect envers lui, notamment avec Netflix et tout ça, qui lui ont pardonné certaines choses, certaines mauvaises performances, notamment à la fin de sa carrière et tout ça. À un moment donné, clairement, j'ai cru qu'on s'en débarrasserait jamais de Ricciardo, parce qu'il était plus au niveau, mais avec Netflix, il avait tellement une image bankable qu'on voulait pas s'en séparer. Après, rien à dire, le mec a l'air adorable, et surtout, il a fait du bien à l'image de la Formule 1.
Mais l'empathie du mec a camouflé les lacunes du pilote.
Sur sa fin de carrière, on est d'accord. À la fin, ça allait plus trop. Ah, c'est quand même vachement dur de le mettre, mais c'est super difficile.
Assume, Nico, c'est ton premier podcast, là, faut y aller. Hein. T'as été très bon jusque-là, Daniel Ricciardo, surcoté. Je suis pas loin, il m'a convaincu. Parce que c'est vrai que Daniel Ricciardo...
Non, mais ça s'entend, parce que sa fin de carrière est beaucoup trop... Enfin, misérable, pardon,
le talent exceptionnel du gars, tu l'entrevois 3-4 saisons. Et derrière, après, c'est quand même une petite lente descente aux enfers. Alors,
pourquoi je l'ai mis là, moi ? C'est aussi la trajectoire. C'est-à-dire, il est dans le giron Red Bull.
Oui.
L'ancien champion part, la voiture est bonne. Tu te dis là, il a une fenêtre de tir, c'est pour lui. Et là, tu as un gamin de 16 ans qui arrive et qui poussez vous, en fait, c'est pour moi. Et c'était aussi pour ça que, tu vois, je me disais, c'était un champ...
Le storytelling.
Il avait tout pour l'être, puisqu'il était au bon endroit, à peu près au bon moment. Mais il y avait un gars dans le baquet, juste à côté de lui, à chaque fois, qui a tout pris, quoi.
Allez, Ricciardo, surcoté. On termine ce podcast sur ça, les amis. Merci beaucoup. Bien évidemment, je vous rappelle que tout ça, c'est de la subjectivité. Hein, okay. On dit ce qu'on pense. Que d'ailleurs, si vous avez envie de nous donner vos pilotes qui auraient dû être champion du monde, qui vous ont fait rêver, rendez-vous sur l'Instagram Paddock RMC. Et puis nous, on se retrouve jeudi prochain. Ah, il y aura peut-être une petite interview spéciale. Restez connectés.
Oh là là.
Activez les notifs là en cours de semaine. On s'avance pas trop, mais restez connectés. Et sinon, on se retrouve pour le warm-up du Grand Prix du Canada. Nico, merci pour ta première. T'as été excellent.
Hein. Merci à vous. C'était cool.
Tu vas des histoires et tout. Ça va être magnifique. On va te mettre avec Jean-Luc Roy. Les deux, ils vont être. Hein
oh là là. Dans le rétro de Nico et Jean-Luc, on va pouvoir remonter très loin.
On va se faire des super podcasts historiques.
Vous allez vous régaler. Les amis, merci beaucoup et à très vite. Bye bye.
Le paddock RMC.